Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans
The Boys Club.
On est de moins en moins synchro d'épisode en épisode.
Ça va bien, je trouve que un côté un peu... C'est la liberté.
Voilà.
C'est
la liberté des podcasts.
Des podcasts. Des
podcasts, c'est pour taguer.
T'as dit podcast.
Qui podcast. M'a dit ma fille dit podcast.
Ta fille qui a
9 ans.
Ouais, ouais.
Elle n'arrive pas
moi,
à chaque
37
fois à dire podcast. Et on rit.
Nul.
C'est marrant.
On est donc avec l'homme qui ne sait pas prononcer podcast.
Mais si, podcast.
Podcast, ça
voilà.
Y est.
Lucien Mène.
Bravo. Salut. Lucien.
Bienvenue.
Très belle introduction.
Bienvenue dans le royaume de la honte. Vous êtes chez moi. Prenez un siège. C'est des sièges bites. Ils sont tous ridicules. Asseyez-vous.
Asseyez-vous voilà. Donc sur ma bite. Damarrage.
Il fait chaud chez vous. Je vais me déshabiller déjà.
Ok.
Ça
Il
commence.
Faut savoir que tous les invités du Boys Club sont nus.
Sont nus
parce que
en
vous
général.
Ne voyez pas. Bah c'était oui. Gênant quand on a fait celui de Fab devant 120 personnes, mais bon,
bah écoutez,
c'est la règle.
Voilà.
On est détente.
Je ne suis pas pudique.
Très beau sexe, pas... long et imberbe. Comme son
j'ai
corps.
J'ai envie de partir. Long et imberbe comme son corps.
Oui, c'est vrai.
Bah oui.
Je suis long et imberbe.
C'est, je crois, la seule personne qui a moins de poils que moi en France.
C'est vrai, putain.
C'est fou.
Déjà, j'ai moins de cheveux déjà.
Ah bah ça, oui.
Ça.
Faut bien qu'il gagne quelque part quand même aussi.
Bon, arrête, Lucien, il est trop classe.
The Boys Club, c'est donc, vous l'aurez deviné par rapport à cette intro, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Je suis avec Fab et tous les 15 jours, on reçoit un homme qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est avec Lucien Mène qui n'a jamais écouté The Boys Club.
Non, c'est vrai, j'ai honte.
Mais pardon. Il ne faut pas, comme
c'est
ça
très
tu
bien.
Découvres. Oui. C'est vraiment pas un prérequis d'avoir écouté.
On aime beaucoup les candidats vierges.
En terrain connu.
Et on commençait en off, avant de lancer l'enregistrement, on parlait de Survivor, ta grande passion,
et
qui
oui.
Est donc, alors je vais dire le Koh-Lanta américain et tu vas me dire, mais pas du tout, c'est Koh-Lanta qui est le Survivor français.
Exactement.
Donc Survivor, c'est l'émission de survie qui a inspiré Koh-Lanta et qui a inspiré plein d'autres
ouais.
Copycat à travers le monde.
Tout à fait.
Mais pour toi, rien ne détrône l'original.
Alors, peut-être que la version russe est trop stylée, mais je ne l'ai pas regardée.
Ils sont dans la toundra et tout, ils ouais. Tuent des phoques.
Non, mais il y avait c'était une fiction, mais il y a eu un truc comme ça où, justement, ça s'appelait toundra, je crois, d'ailleurs.
Ou de l'Ouzbékistan, tu vois, par exemple.
Ouais, ça se trouve, les Ouzbeks, ils sont trop forts en Survivor. Mais la version US est incroyable. Enfin, pour moi, c'est la meilleure série. C'est même pas la meilleure émission, c'est la meilleure série. C'est la série que j'attends le plus, c'est Survivor.
Et est-ce que tu penses que ta passion pour Survivor a un lien avec ton genre masculin et avec les codes de la masculinité ?
Alors, pas directement, parce que je pense pas qu'il faille être un homme pour apprécier Survivor à 200%, parce que c'est vraiment des mécaniques de jeu qui n'ont rien à voir avec le genre, même si... Y en a certaines puisque c'est des épreuves comme dans Koh-Lanta en fait il y a aussi des épreuves de il faut aller chercher un truc sous la flotte et le sortir et ça pèse 50 000 kilos donc évidemment la force brute masculine est souvent un petit peu plus avantagée mais je trouve que justement c'est un show qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux fait sur cet aspect là parce que contrairement à Koh-Lanta la force physique n'est pas le seul truc qui va te permettre d'être très très fort dans ce jeu. Il y a notamment énormément de puzzle games, ils appellent. Et en fait, là, souvent, les épreuves sont divisées de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a un premier truc qui est assez physique. Genre, soit il faut aller chercher un truc en hauteur, soit il faut faire preuve d'équilibre et passer des ponts de singe et je sais pas quoi. Et souvent, il faut aller chercher des sacs dans lesquels il y a des pièces de puzzle et tu les rapportes. Et là, à la fin, eh ben, d'autres gens de ta tribu, ils appellent ça des tribus, doivent résoudre le puzzle et c'est là, mais vraiment 85% du temps là-dessus, sur cette épreuve-là, ouais. Sur ce moment-là de l'épreuve, que ça se gagne. Et il y a parfois des équipes qui sont grave en avance sur la partie physique et ils se font rouler dessus parce qu'ils sont incapables de faire le puzzle.
Alors, je sais pas si tu suis Koh-Lanta de ce fait-là, mais
bah, plus.
Ils ont vraiment venu vers ça aussi. C'est-à-dire
c'est cool.
De plus en plus, t'as des puzzle games et justement, les meufs sont souvent plus ou moins à la bourre dans le truc et elles finissent par gagner à la fin parce qu'elles sont.
Ben oui, mais parce que je sais pas si c'est complètement non, lié aux genres, parce que
non, mais bien sûr que non, que c'est pas lié aux genres, mais en tout cas, ça aide à compenser l'aspect physique.
Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi plein d'autres épreuves qui n'ont à voir ni avec le physique ni avec strictement les puzzles, mais qui ne sont pas genre gender oriented, je dirais, avec un anglicisme.
Mais ceci dit, il y a un vrai aspect de compète et tout qui sont plutôt des valeurs masculines. Hein. Et d'ailleurs,
pas aux États-Unis, mon cher ami. Les meufs aux États-Unis. Bon, en fait, je pense que c'est lié tout simplement à la culture de la nation américaine. C'est que la nation américaine. Non, ben oui, j'allais pas dire le pays parce que. Il y a une vraie culture. Bon, est-ce que c'est pas tout aussi toxique que la masculinité, je sais pas, mais il y a une vraie culture de on t'élève pour gagner, en fait, on t'élève pour être le winner et tout ça, ou du moins, enfin, là je le dis d'une manière très négative, mais en fait c'est assez admirable aussi dans Survivor, c'est que ils se donnent, en fait, le but dans Survivor de tous les concurrents, c'est de donner leur meilleur et d'essayer au maximum et de se dépasser, en fait, et de faire des choses de faire des choses qu'ils ont jamais fait dans la vie. Et ça va être un podcast sur Survivor, hein, si vous me laissez parler de Survivor, mais... je vais parler que de ça, hein.
En fait, c'est intéressant,
on accrochera les wagons.
Mais parce que je pense aussi que on élève plutôt les petits garçons à se dépasser, et à être dans la compétition, oui, plus que les petits filles. En tout cas, en France, je sais pas aux US comment ça se passe.
C'est un peu moins, j'ai l'impression que c'est un peu moins présent aux US. Ou du moins, le fait que Survivor, ce soit un jeu, à la fin, tu peux gagner $1 million, ça amène des gens beaucoup plus compétitifs à venir faire le truc. Et donc, c'est pour ça aussi que je préfère largement Survivor à Koh-Lanta, c'est que Koh-Lanta, tu gagnes 100 000 balles. Les gens qui sont brillants dans la vie, ils peuvent gagner 100 000 balles. Enfin, tu vois, c'est pas évident, mais tu vois, s'ils veulent
c'est
se mettre
une
à fond.
Somme aussi...
Voilà, tandis que t'as beau, tu vois, être, je sais pas, entreprenant dans la vie, te dépasser, être capable de faire 3 boulots en parallèle, à faire des ménages, tu vois, il y a plein de manières de se dépasser et de gagner de l'argent. Et en France, on te dit, ouais, si tu veux participer à ça et gagner 100 000 balles, ouais, enfin, ça va pas te motiver, bof. Alors que $1 million, tu dis ok, ou d'euros, tu dis ok, vas-y, je vais y aller. Et donc ça donne des concurrents qui sont beaucoup plus, ils ont la niaque.
Mais du coup, cette longue intro sur Survivor et Koh-Lanta,
c'est trop bien. Elle est un peu liée à votre thème, parce que
oui, bien sûr qu'elle est liée,
parce que en fait ces valeurs de compétitivité, de tu vas être le meilleur, et de si tu triches mais que tu t'en sors, c'est pas grave, parce qu'en fait à la fin tu gagnes et tu domines les autres, et abandonner c'est pas bien, sont des valeurs qui, comme on le disait, en tout cas en France, sont plutôt inculqué aux garçons et pas aux filles, parce que les filles ont un vrai côté empathie et il faut quand même pas prendre trop de place.
Gentillesse, sensibilité,
oui,
et tout ça.
Est-ce que toi, c'est des valeurs avec lesquelles t'as grandi?
Je crois pas. Je crois pas, parce que mes parents sont, mine de rien, psychologiquement très intelligents. C'est des gens très éveillés et très modernes. Ils se définissent souvent comme des 68ards, et ma mère est très fière d'avoir lu Dolto au moment où c'est sorti et tout ça, et de nous avoir éveillé à tous ces concepts là et à nous avoir élevés de cette manière là et donc très vite ils nous ont inculqué des valeurs de ce qu'il faut, c'est ne pas écraser les autres, et effectivement faire de ton mieux. Mais si tu échoues, c'est pas si grave et tout ça. Et après, c'est marrant, parce que moi, ça m'a rattrapé. Moi, j'ai un vrai problème avec l'échec et la peur de l'échec et le perfectionnisme toxique. Tu vois, le côté si c'est pas absolument parfait, bah c'est que je suis une merde, et si je suis pas parfait, c'est que je suis nul. Enfin, tu vois, il y a aucune zone de gris dans mon esprit, et j'essaye de me faire ma propre psychanalyse et de me calmer un peu avec ça, mais j'ai beaucoup de mal.
Quand tu dis que tu fais ta propre psychanalyse, ça veut dire que...
j'ai pas les couilles d'aller voir un psy pour l'instant.
Parce que ça te fait peur.
Ouais. En fait, ça me fait peur pour deux raisons. C'est d'une, de devenir accro. C'est-à-dire que de ne plus pouvoir vivre ma vie sans être épaulé par un ou une psy. Bon, c'est pas la vraie grosse raison. La vraie grosse raison, c'est que je doute beaucoup de mon talent artistique. Et je me dis, mais c'est aussi une construction sociale complètement conne, sûrement, hein. Mais je me dis, si j'ai plus de failles, bah, je vais devenir inintéressant, en fait.
Voilà, parce que donc tu es auteur, réalisateur, comédien,
ouais,
plein de choses, tu as une chaîne YouTube, etc. Et tu penses que, comme tous les artistes torturés, si tu vas bien, t'auras plus rien à raconter.
Ouais, il y a vraiment une part de ça, et c'est... sûrement très très con, parce qu'en vrai, si je me faisais la paix avec mes failles, si j'acceptais mes problèmes et tout ça, je pense que ça me rendrait plus fort, évidemment, mais j'ai une espèce d'instinct qui m'empêche d'aller faire ça.
Est-ce que je peux te donner une expérience tirée de ma propre expérience?
Oui, enfin, parce que tu en sors.
Un conseil, enfin en tout cas un constat, c'est que en fait tu vas boucher des failles et tu vas en créer d'autres.
Ah oui.
Et c'est pas grave en fait, c'est juste que en fait en bouchant des trous, ça va aller ouvrir d'autres trous en fait que tu soupçonnes pas jusqu'ici,
ouais,
et qui sont pas, et c'est pas très grave. Ouais. Mais donc en fait t'inquiète, t'en auras toujours.
Ouais.
Et je pense que c'est le chemin d'une vie.
Ouais,
et c'est
non,
pour
c'est
ça justement que c'est intéressant de dire que t'as peur de devenir accro, mais en fait c'est pas grave. C'est comme si tu disais j'ai peur de devenir accro au docteur, parce que quand j'ai un rhume, je suis obligé d'aller le voir. Bah non, en fait, juste si t'es malade, va te faire soigner, et c'est pas très grave.
Oui.
Tu vois,
mais être accro, justement, c'est y aller quand t'as rien. Parce que t'as. Enfin, pour moi, ce que je comprends quand tu dis j'ai peur d'être accro, c'est j'ai peur de plus jamais imaginer ma vie sans un psy, ou j'ai peur de. Enfin.
Ouais, c'est ça.
En fait, il y a des gens qui abusent des rendez-vous médicaux parce qu'ils sont turbo flippés et qu'ils ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas leur docteur qui leur dit vous allez bien, tout va bien.
Ah,
tu vois.
Dans ce sens-là, ok.
Ils n'arrivent pas à se persuader eux-mêmes.
Mais
je pense pas
que ce soit.
Mais
un
c'est
peu
pas
ton
dans
idée.
Mon tempérament. Donc c'est pas la vraie raison. Je pense que la vraie raison, c'est effectivement cette histoire de faille. Et paradoxalement, parce que tu vois, je suis conscient de mes failles et je me dis, bah c'est une richesse et ça me permet d'être peut-être un tout petit peu intéressant artistiquement. Et d'autre part, donc c'est complètement paradoxal. Il y a ce côté, mec, une espèce d'ego, de surego, j'en sais rien, mais c'est admettre que tu n'es pas parfait en fait d'aller voir quelqu'un comme ça. Et donc j'ai pas encore le cran et les tripes d'y aller. C'est ridicule, mais j'ai pour l'instant je suis un peu bloqué là-dessus.
C'est pas ridicule.
Pas du tout.
Oui.
Et d'accord. En même temps, enfin. Pour moi, si t'as fait tout ce chemin dans ta tête, bah, va voir un psy, t'as déjà tellement de trucs à lui raconter.
Ouais, non, c'est sûr. Ah non, mais ça, c'est certain. Moi, je suis certain que je vais pas, si le jour où j'y vais, je pense qu'il y aura pas les moments gênants de silence de la première séance que parfois les gens racontent. Moi, c'est sûr que je vais dire, alors, j'ai extrêmement peur de la mort, j'ai ça, et ça va partir très très vite, quoi. Je pense.
Tu seras un bon client.
C'est clair.
Ton futur ou ta future psy aura bien de la chance d'avoir ce premier rendez-vous. Et donc, tu disais que t'as pas grandi du tout avec la peur de l'échec, puisque tes parents t'ont élevé dans l'idée que échouer, ça arrive et c'est pas la mort, mais que ça t'est venu. Mmh. Est-ce que t'as une idée de où ça t'est venu, d'à peu près à quel âge ça a commencé à te...
Ah oui, j'ai une idée très, très précise de quand. Mais j'en avais déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, Mimi.
Oui, car tu étais l'invité d'un de mes tout premiers podcasts,
ouais,
sur Mademoiselle, que j'aime toujours beaucoup, sur les complexes masculins.
C'est vrai.
Que je vous encourage à aller écouter.
Avec Nicolas Bernot
et
Mathias Jambon-Puyet.
Oui.
Et je parlais justement de ce moment où... je lui en veux pas du tout et je comprends complètement les circonstances. Donc j'ai plus du tout de rancœur envers mon père. Mais quand j'avais 8 ans, il s'engueulait avec, comme tout parent, il s'engueulait avec ma mère. Mais il y a un jour, il s'est engueulé très fort avec ma mère. Et moi, je m'étais réfugié dans la salle de bain. C'était au moment du déjeuner, c'est genre le poulet du samedi dimanche, du samedi poulet frit du samedi après-midi, samedi midi. Et donc je m'étais réfugié. Enfin, je peux sortir de table. J'étais parti et j'étais dans la salle de bain à ce moment-là. Non, dans ma chambre. Et il était venu me trouver. Il était en colère et il était malheureux. Je pense qu'il était extrêmement malheureux parce qu'en fait, il avait l'impression que ses enfants lui volaient l'amour de sa femme. D'une certaine manière, parce que c'est un écorché vif qui n'a pas été aimé par sa mère et tout ça. Il a beaucoup de raisons d'avoir réagi comme ça. Et ça lui aurait fait beaucoup de bien d'aller voir un psy, justement, lui aussi. Mais maintenant, il est trop vieux pour ça. Bisous, papa, je t'aime.
Pas.
Ah, il a 70 piges, il a autre chose à faire, d'autre chose à fouetter. Maintenant, il faut qu'il kiffe. Il kiffe la vie. Bon, bref. Et donc, il est venu me trouver dans ma chambre et il m'a dit tu vois, tout ça, c'est de ta faute. Et dur quand t'as vu. Bah ouais, parce que je suis l'aîné, je suis le premier qui a, entre guillemets, volé l'amour de sa femme. Tu vois, tous ces trucs-là. Et là, j'ai fait, d'accord. Ça doit être ça.
J'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à venir.
Ouais, j'étais pas mature. J'avais 8 ans.
Ça,
tu vois, et j'ai dit, non, il s'engueule à cause de moi. Donc ça veut dire que j'ai fait des trucs pas bien et tout ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où, très rapidement, en fait, c'est pour ça que je parlais de salle de bain.
J'étais après dans la salle de bain et j'ai regardé le miroir et j'ai dit t'es moche et j'ai commencé à ne pas m'aimer en fait et à m'en vouloir de pour des trucs au début qui n'avaient pas forcément de sens quoi mais c'est parti comme ça et à partir de là le côté échec et il faut que tu prouves que machin et il faut que tu fasses le maximum et que tu sois irréprochable et je suis toujours j'ai été très susceptible, je le suis encore un peu, j'essaye aussi d'évoluer là-dessus, mais j'ai été très susceptible parce que pour moi à chaque fois qu'on me disait un truc, qu'on me vannait ou tout ça, c'était une preuve de mon échec ou une preuve de ma faillibilité, je sais pas si ce mot existe, et je vivais ça hyper mal quoi. Je veux pas être imparfait quoi, je veux pas avoir de faute.
Et tu te souviens de ce moment-là très précisément?
Ouais
de cette phrase.
Ah ouais, tout ça c'est de ta tout faute, ça. Je me souviens très bien. Et il y a une deuxième phrase, donc tout ça c'est de ta faute.
8 piges,
c'est une phrase,
hein. C'est très dur. 8 piges. Hein.
Ouais, ah bah, c'est, ouais c'est tôt. C'est tôt, mais il était malheureux. Et aussi, mon frère était né un an avant, parce qu'on a 7 ans de différence avec mon frère. Et il était tout petit, et donc ça pouvait pas être de sa faute et tout ça. Enfin, il pouvait pas. Et le truc, c'est que c'était moi l'aîné, donc c'était moi. Et en plus, ma mère a toujours eu. C'est autant de la faute de ma mère que de mon père, hein, clairement, et puis autant de la faute de la vie, en fait. C'est pas ni l'un ni l'autre, parce que c'est juste, c'est hyper dur d'être parent, il n'y a pas d'école et tout, c'est vraiment trop dur.
Ça serait bien d'ailleurs une école. Monter des écoles pour devenir parent.
Ouais, tu imagines la gueule de l'école. Et en fait, ma mère avait une relation beaucoup trop fusionnelle avec moi, et elle me surprotégeait beaucoup trop parce que. Pour plein de raisons, quoi. Elle a cru qu'elle pourrait pas avoir d'enfant à un moment dans sa vie. Et au moment de la grossesse, elle a cru que ça se passerait pas bien. Elle a eu du mal à accoucher. Enfin, il y a eu plein de raisons pour lesquelles elle m'a surprotégé. Et elle s'est toujours mis beaucoup trop de mon côté parce que c'est difficile. Ça rompt un équilibre avec moi. Ça a rompu un équilibre avec mon père. Enfin, bref, c'était. Voilà. Mais moi, dans ma petite tête de gamin de 8 ans, je me suis dit, OK, d'accord. Donc, si papa, il pense que ça, il doit avoir raison. C'était pas la l'adolescence, tu vois, j'ai pas du tout remis en question. Après, c'est ressorti quand j'avais 15 piges, 13-14, dans ces eaux-là, pendant vraiment des circonstances bizarres, mais c'est toujours les repas, en fait. Pendant un dîner, on faisait un barbecue, on était en Corse, et mon père avait pêché, lui-même, parce que c'est un plongeur, et tout ça. c'est un homme de la mer, il avait pêché des langoustes, et on faisait ces langoustes au barbecue, trop bien, tu vois, tu te dis, oh, ok, comment il peut y avoir un drame familial dans ce contexte-là, alors que c'est trop stylé. Et c'est parti pour une broutille et il m'a encore rebasculé la faute et comme j'étais adolescent et que je commençais à réfléchir et à avoir des bribes de début de pensée d'adulte, j'ai explosé et j'ai passé une heure à lui hurler dessus et à lui dire ça fait 10 piges que tu m'accables, enfin 10 piges non, 8 piges que tu m'accables de tout et de rien et c'est atroce et j'en peux plus et je vais tout balancer dans la gueule. J'ai appris des années après par ma mère qu'il avait pas dormi de la nuit, il avait passé la nuit à pleurer le pauvre, enfin tu vois c'est des choses qui te bâtissent en fait et au final je pense que ça a beaucoup construit ma façon de voir l'échec, la perfection, le fait d'être infaillible et de vouloir être toujours pas toujours le meilleur parce que je m'en foutais de ça d'être le meilleur mais de toujours être bon, de toujours être qu'on me dise pas comment t'es nul à ça, je détestais ça et ça m'a
mais,
toujours
mais rendu on te l'a triste. Vraiment dit comment t'es nul à ça ou c'était
ça arrive
ta
toujours
perception
mais bien sûr c'est
non mais des gens qui te disent t'es vraiment nul à ça.
Bah ouais. Non mais tu vois, j'ai un exemple qui est complètement stupide et un peu marrant, c'est que au moment de la Super Nintendo,
ça date déjà ton.
Vous allez voir, il y a un lien. Oui bah oui, je suis né en 1980 donc forcément c'est des références de Yeux un peu. Au moment de la Super NES, j'ai un pote qui me la prête avec Street Fighter 2. Voilà.
Le bonheur.
Donc toi-même tu sais, tu es de la même génération que moi. Voilà, c'est tout le monde parlait que de ça dans les cours de récré et tout, et on voulait tous être forts à Street. Et donc je rapporte la console et le jeu chez moi. Je ponce le jeu pendant une après-midi. Mon frère, je sais pas, il était au karaté, il était pas là quoi. Et donc rappel des faits, il a 7 ans de moins que moi. Donc c'est à ce moment-là, on est en 94, j'ai 14 ans, il a 7 ans. Je ponce le jeu et je commence à savoir faire des hadoken et des trucs comme ça. Je suis trop content et je me dis « Yes, je vais le niquer !» Il rentre en fin d'après-midi. Je dis Max, viens voir, j'ai un nouveau jeu et tout. Ah, il est trop content. Il me dit ah, trop bien, Street Fighter, ah, trop bien. On commence à jouer. Les deux premiers matchs, le premier match, je l'éclate. Le deuxième match, je gagne, mais genre 2-1. Et à partir du troisième match, il m'a roulé dessus parce que il a un instinct, il est fort en jeu vidéo. Et ben, j'ai tellement jeté les manettes, mon gars, j'ai tellement ragé comme un ouf pendant, je crois, 10 ans, 15 ans, j'ai plus joué à un seul jeu vidéo. Voilà.
C'est un peu à quel overkill point, comme réaction.
C'est complètement overkill. C'est tu te coupes de fun. En fait, je jouais plus à aucun jeu vidéo, au moins compétitif. Je faisais des jeux vidéo par moment, mais la plupart des jeux vidéo, je n'y jouais plus. Et encore maintenant, tu vois, parfois, Noël dernier ou Noël d'avant, je sais plus. Non, Noël d'avant, on jouait à Battlefront avec mon frère encore. Et on ne jouait pas l'un contre l'autre, mais je voyais ses scores et les miens, et je disais, putain, mais tu me saoules, t'es trop fort, tu m'énerves. Parce que j'aime pas être nul, en fait. Et les jeux vidéo, bon, voilà, mon esprit n'est pas fort pour ça. Bah, je suis nul et ça, je déteste. Mais voilà, c'est stupide. Voilà. Vous faites tous les deux un sourire de ce mec est timbré.
Mais non, pourquoi non, tu dis ça? Non,
pas timbré, mais waouh.
Non, moi, avec mon frère, on fait ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve chez mes parents à Noël. Et ouais. je ramenais systématiquement. J'ai arrêté maintenant parce qu'en fait, je ramenais systématiquement ma console et on jouait au jeu de basket parce qu'on est tous les deux grands fans de basket.
Des fans de basket, ouais.
Et on jouait à NBA 2K et en fait, je prenais toujours l'équipe la moins bonne et lui, il prenait l'équipe la meilleure et en fait, je le hâtais à chaque fois. Et on faisait un match où il était. Et puis le deuxième, il péter un câble.
Ouais.
Et moi, j'étais là, je sais pas, viens, on continue à jouer, en fait, c'est trop cool.
Ouais.
T'es un peu mauvais perdant, toi aussi, Fabrice, non?
Mais j'aime pas perdre. Mais je suis, en fait, je vais pas pourrir le truc si jamais je perds, tu vois ce que je veux dire?
Tu vas pas dire, ouais. j'arrête voilà, de jouer pas... pendant 15 ans.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est la fin du game de...
Et moi, j'étais insupportable. J'étais insupportable. Je me souviens, attends, c'était... Une fois, mais c'est vraiment.
Mais est-ce que ton frère se l'a raconté aussi ou pas? Non, lui juste.
Mais non, c'est un petit bout. Il avait 7 piges, il était ouais. gentil comme tout. Enfin, franchement, c'est pas du tout de sa faute à lui, quoi. Lui était là, non, viens, on joue. Enfin, franchement, il était trop mignon, quoi. Et moi,
je peux faire un boys club avec ton frère où il me dira que c'est le fait que son grand frère voulait pas jouer aux jeux vidéo avec lui.
Non, mais en vrai, mon frère, je pense que ce serait très intéressant de l'inviter. C'est pas une personnalité publique, mais il a une façon de penser qui est vraiment. Tellement intéressante et il réfléchit tellement justement à toutes ces questions de masculinité, de sexisme, il est plus féministe que 80% des meufs que je connais et enfin, vraiment il est très très intéressant là-dessus. Et en plus, il est en entreprise, enfin il a plein d'insights qui sont très intéressants.
C'est noté.
Voilà, je vous donnerai son contact.
Très bien.
Et il y a pas longtemps. Non, c'était, je devais avoir 20 piges. J'étais avec une de mes premières meufs importantes, avec qui on est resté longtemps. Et un soir, on était des galériens, on avait 20 ans, on n'avait pas d'argent. Et donc un soir, elle me dit, ah tiens, viens, on va faire un truc que je fais parfois avec mes potes d'école d'art. Bon. Donc elle dessinait plutôt bien. Moi, j'ai toujours dessiné plutôt pas mal, mais pas ouf. Et en fait, son jeu, c'était, on prend tous les deux une feuille et on fait une BD en parallèle. Et en fait, on fait une case chacun et on fait un genre de petit cadavre exquis, voilà, mais construit dans une BD.
Okay.
Et en fait, l'idée, c'était pour chaque case, moi, j'écris une phrase de texte, genre une didascalie, et ça va être à elle de le dessiner et réciproquement. Et voilà, et on fait ça. Et je me souviens, moi, j'ai mis elle m'avait mis un kangourou dans ma BD. J'ai dessiné un kangourou tout pété, il était chum. Et j'étais là, oh, il est nul. Et donc, c'était donc le setting de ma BD, enfin le contexte de ma BD. Moi, j'écris la deuxième bulle en disant, le kangourou, il va faire des courses. Et elle dessine un kangourou stylé.
En même temps, c'est des études.
Mais oui, mais je te dis, il n'y a aucune rationalité dans ce que je dis.
Est-ce que t'as j'ai arrêté vu son... de dessiner
Non, mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, j'ai fait putain, vas-y, mon kangourou, il est nul. Comment t'as fait? Ah, ça me fait trop chier. Ah, vas-y, là, ça me saoule. Et j'ai été relou. Et c'est elle qui a dit, non, vas-y, viens, on arrête, c'est relou. Tu casses les couilles. Et on a arrêté de faire ça parce que je bitchais beaucoup trop. J'étais là, oh, mais non, ah, putain, ah, je suis nul. Putain, mais pourquoi j'ai pas compris que le kangourou, ça se dessinait comme ça? J'étais relou, hyper chiant. Une fois, j'ai pété un câble avec cette même meuf. Hein. Je voulais faire des œufs au plat. Pour le petit déj.
J'aime bien voir, c'est toujours les trucs les plus triviaux.
Mais non, mais je te jure,
monde.
Mais c'est de la merde. J'ai pété un œuf, le jaune, hein.
des choses qui
j'ai pas, ouais, voilà. Et j'ai même pas genre éclaté la coquille dans la, dans la poêle ni rien. Hein. C'était pas grave. C'est juste un jaune qui a coulé, quoi. J'ai pété un câble. J'ai hurlé. Parce que j'avais échoué.
T'étais dans Top Chef ou...
Mais non, j'étais juste dans moi-même, ma tête, et moi qui voulais faire des œufs au plat parfaits pour la meuf que j'aime, tu vois. Et donc c'est bien intentionné, mais insupportable et super chiant. Elle m'a dit, c'est quoi, c'est pas grave, regarde. Et elle a scramble, elle a éclaté les œufs, elle fait, voilà, ce sera très bien. Et elle a mangé ces œufs-là, elle m'a dit, t'inquiète, moi je suis trop contente que tu m'aies fait des œufs. Mais j'étais relou, j'étais insupportable.
Parce que tu parles au passé. Je pense que ça va mieux, de ce que tu me dis. Encore
en fait,
la détente totale de ne pas réussir à faire un truc. Mais
mon instinct, c'est ça. Et depuis des années, parce que justement, j'ai des gens un peu plus refroidis dans leur tête, un peu plus... qui ont les idées plus calmes que moi. Parce que beaucoup de colère, en fait, beaucoup de nervosité là-dedans. Et elle m'avait appris beaucoup de choses là-dessus. Et mon frère, tu vois, tout au long de ma vie, souvent, il m'a dit, mec... vas-y, calme-toi, on s'en fout, viens. Et c'est lié aussi à un truc où... deuxième chose qui me rend taré, c'est de gâcher. C'est-à-dire que la phrase, mes potes l'utilisent souvent pour se foutre de ma gueule, c'est que la phrase qui me rend le plus triste au monde, c'est « t'as tout gâché ». Donc, c'est un peu lié aussi. Mmh. C'est un peu lié aussi. Et donc, Max, sans jouer là-dessus, de manière sadique, mais dit viens, on nique pas le fun, quoi. On s'amuse quand même, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai un peu réfléchi là-dessus, j'ai un peu pris de recul, et je me suis dit, en fait, je suis chiant. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis chiant, et les gens disent putain, c'est parfois intense d'être avec toi, parce que de te fréquenter, parce que t'es relou ou tu te mets en colère folle pour des trucs pas graves, quoi.
T'en as déjà parlé à ton père de ce fameux moment, parce que tu t'as dit que tu lui en voulais plus, que t'as compris, etc. Enfin, t'es grand maintenant.
J'en ai pas parlé directement parce que en fait,
en dehors de cet esclandre quand t'étais ado.
Ouais. Là, je l'ai mis dans la gueule, mais. Bon,
mais de façon un peu plus tranquille.
Non, parce que. En fait, c'est un peu difficile mon rapport à mon père parce qu'il est très. Il est très fragile, en fait, émotionnellement. C'est vraiment un gros cœur, quoi. C'est vraiment un homme sensible. Et c'est beaucoup plus facile de lui faire monter les larmes aux yeux qu'à beaucoup d'hommes, quoi.
Mais toi aussi, non, t'as l'air d'être sensible.
Ouais, mais moi, j'ai une énorme couche de construction sociale qui bloque. Avant que je pleure en public, il faut vraiment aller très très loin. Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste que, en fait, j'ai, comme il a passé sa vie à croire que les gens étaient contre lui et ne l'aimaient pas et tout ça, et même sa famille, en fait, j'ai pas envie qu'il l'interprète mal, et j'ai pas envie de, tu vois, c'est difficile, en fait, de... Enfin, ça se trouve, il écoutera ça.
Il va écouter ça, mais peut-être que ça va créer une discussion.
Tu sais, il va m'envoyer des textos en disant « Alors, c'est dans la barre d'adresse qu'il faut.
» Peut-être que tu peux lui set up. Je vais installer une appli de podcast et je lui ai mis les podcasts que je voulais qu'elle écoute. Mm-hmm. J'ai mis l'histoire de Daron.
Ouais. Elle aime bien. Ouais. Tu connais pas mon père.
C'est vrai que ma mère n'a pas...
Non, mais je lui ai filé mon ancien iPhone et il galère vraiment à faire des trucs.
En fait, ce que je veux dire, c'est que tu crois pas que si aujourd'hui, alors maintenant que tu dis il a 70 ans, toi t'as
37.
Bientôt, voilà, 37, vous êtes deux adultes, en fait.
Ouais.
Toi, il te reste encore un long moment. Et en fait, je pense qu'il n'est pas obligé de le prendre... il n'est pas obligé de le prendre, tu vois, de se fouetter la gueule avec cette histoire, en fait, mais... Mm. À quel point, je me rends pas compte, en fait, à quel point toi ça peut t'aider à...
Je sais pas. Le truc, c'est que j'ai fait la paix avec ce truc-là.
Ok.
Je crois que c'est bon. En fait, c'est derrière moi. Et déjà, c'est une grande avancée de dire je lui en veux pas du tout. Mm. Parce que je lui en veux vraiment pas du tout. Mm. Et de le penser sincèrement. Mm. Peut-être il y a 10 ans, j'aurais pas dit la même chose.
Ok.
En fait, je sais pas si. En fait, je crois pas que ça m'apportera beaucoup de choses à moi d'avoir cette discussion avec lui directement et de lui ressortir ça. Mais je crains que ça lui fasse du mal. Donc, moi, je lui veux vraiment aucun mal. Donc, je me dis, si on a des trucs très sérieux à discuter entre nous, autant que ce soit d'autres choses qui peuvent nous apporter à tous les deux, quoi.
Et t'en as déjà parlé à ton frère? Parce que du coup, il avait un an, donc...
Ouais, ouais, ouais. Non, mais mon frère, c'est mon meilleur ami, donc vraiment, il est au courant de tout. Et en plus, il est brillant, quoi. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Il y a plein de choses pour lesquelles il m'a donné des conseils, alors que moi, j'avais 22 ans et lui 15, quoi. Et il était beaucoup plus mature que moi, quoi. Et donc, il y a tout un tas de choses, ouais, qu'on a discuté ensemble. Et d'ailleurs, mais c'est vraiment intéressant que vous parliez avec lui parce que lui, il s'est construit. Moi, je me suis construit comme le mec fautif toute ma life, et je me suis construit comme étant le boulet ou le mec irresponsable, ce genre de choses. Et j'ai encore ces constructions mentales. J'ai encore cette perception de moi. J'essaye de lutter pour que ce soit de moins en moins le cas. Et lui, justement, s'est construit comme le mec stable. Comme le mec fiable, comme le mec responsable, intelligent, mature. Et tout le monde l'a perçu tout le temps comme ça. Il a toujours eu ce rôle-là, instinctivement, que ce soit dans les groupes de potes, dans la famille, dans ses relations avec les nanas, ses relations amoureuses. Et en fait, lui, il a un gros déficit de « mais vous voyez pas que parfois je vais mal aussi ?» Et lui, il est vraiment... D'une certaine manière compatissant et parfois même condescendant avec moi, parce que je suis genre c'est l'artiste, c'est le chaotique, c'est le mec, c'est le chaos, il est irresponsable, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et Max, c'est le colosse aux pieds d'argile, tu vois, personne ne sait qu'il a des pieds d'argile, et c'est normal, en fait. On a tous des faiblesses, on a tous des failles, on a tous des trucs qui sont difficiles et des moments durs, et lui, personne ne les voit de base, et il est obligé de faire un effort, de dire en fait là je vais très mal en ce moment, j'ai besoin d'en parler avec des gens, et c'est dur pour lui, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il est infaillible, et voilà. Mais donc toutes ces choses là ouais, j'en ai vachement parlé avec lui et il m'a apporté beaucoup, quoi.
On va
je suis amoureux de mon frère, hein, ça se voit, hein.
Non, mais vous avez un grand respect, quoi, c'est cool.
Ah ouais non. Ouais,
clairement. Et du coup, tu parles du fait que c'est plus difficile pour lui que pour toi d'exprimer des émotions. Mais en fait, jusqu'ici, tu m'as parlé d'exprimer de la colère et pas forcément grand-chose. Et c'est typiquement masculin. C'est la seule émotion clairement que les hommes ont le droit d'avoir. Hein. C'est ouais, la colère, c'est ou pleurer si leur chien meurt, c'est tout.
Ouais.
C'est des choses que vous avez le droit de faire.
C'est ça. Non, mais t'as raison. C'est complètement
et en fait,
ça.
Est-ce que... Mais tu vois, tu dis que t'es émotif et en même temps, tu pleures pas en public.
Ouais.
Est-ce que ça a toujours été comme ça aussi pour le reste des émotions, à part... Je suis vénère, j'ai perdu Astrid.
Ça, cette émotion-là.
Comment ça se passe pour le reste ?
Le rire est une émotion, donc ça va. Ça va, j'ai toujours plutôt pas mal exprimé. C'était clairement une échappatoire aussi. Hein. Mais je sais pas trop. Mais après, je me suis construit aussi dans des personnages. Toute l'adolescence. Tiens, j'ai l'élocution aujourd'hui. Toute l'adolescence. Je me suis très vite identifié à fond à des personnalités de poètes maudits, un peu. Que ce soit les poètes maudits ou, tu vois, Baudelaire, Rimbaud, machin, ou Kurt Cobain, Jim Morrison, ce genre de personnalités-là. Et en fait, je me suis beaucoup construit dans l'adolescence, dans c'est cool d'être torturé et malheureux, en fait. Et après... Quand j'ai commencé à être un peu un adulte, genre vers 20 ans, là j'ai déconstruit ça et j'ai construit un énorme phénomène de méthode Coué, de fake it till you make it. Et non, ça va, tout va bien, je suis confiant, je suis conquérant, hein, tout va bien, et voilà. Et maintenant, je suis en train, depuis, ouais, ça fait peut-être 5-6 ans, que j'essaye de trouver un juste milieu entre les deux. Et de me dire, en fait, mes failles et mes erreurs et mes faiblesses, si je me les approprie, eh ben, ça va devenir grave une force. Et en fait, par exemple, le stand-up m'a pas mal aidé avec ça. Parce qu'en stand-up, t'es tout seul avec un micro devant une salle et t'es censé les faire rire. Et quand tu échoues, c'est vraiment... Il y a impossibilité de ne pas voir ton échec, en fait. C'est tu dis punchline, silence. Ah, okay. Là, j'ai fait de la merde. Ma blague est pas marrante, ou je l'ai mal racontée, ou ma tête leur revient pas. Mais il y a beaucoup de chances pour que tu aies échoué. Et donc là, ça, c'est dur. Et parfois, il y a des accidents aussi. Tu veux sortir ta punchline, sauf que tu te trompes de mots. Moi, ça m'est arrivé une fois, je voulais dire shampoing, j'ai dit sandwich.
Dans ma tête, ça rend la vanne encore plus drôle.
Mais justement, et en fait, et bah, c'est cet événement, je m'en souviens parce que c'est cet événement qui m'a fait comprendre ça. Ma vanne, c'était... Bon, c'est pas une vanne folle, mais c'était... j'ai pris ma douche et mon gel douche, c'était pomme cassis. Mon shampoing, c'était pêche abricot. Il me manque plus qu'un seul fruit et légumes et c'est bon, j'ai fait mon truc. Bon, c'était mieux formulé que ça, mais bref. Et donc, je sors cette vanne-là et à la place de shampoing, je dis sandwich.
C'est très marrant.
Mon sandwich, c'est machin. Et je le réalise, je vois les gens qui font une tête de « what ?» Et je dis « hey, j'avais prévu de dire shampoing, j'ai dit sandwich, c'est de la merde. » Et j'ai fait exprès de tomber sur scène, je me suis vautré. C'est comme si tu disais « hey, salut mon pote !» Et je me suis vautré sur scène, je suis tombé par terre, et je me suis relevé, je fais « voilà, c'était ce que je viens de faire. » Et les gens ont éclaté de rire. Et en fait, tu sais, parce que c'était spontané, ouais, c'était sur le moment, et j'ai illustré mon échec et en le prenant à bras-le-corps et en disant « voilà,
je m'éclate.
Foiré ma vanne et c'était de la merde, mais je vais en rire avec vous. Et là, les gens m'ont adoré en fait d'avoir fait ça. Et ben putain, c'est là que j'ai compris. Ah mais en fait, c'est cool si tu réussis tes trucs. C'est ce qu'on il faut essayer de travailler de manière à réussir ce que t'as prévu de faire. Mais si tu échoues dans le processus, et ben ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à te dire ah putain quelle grosse merde. Je sors de scène, tu vois. Il faut rester sur scène et dire hey, « Eh, regardez, j'ai fait ça » et trouver un moyen d'en rire et trouver un moyen de... Et dans le métier d'acteur, c'est une notion très importante, en fait, en tout cas, dans ce que je suis, qui est la méthode de l'acteur studio, machin, tout ça. Et il y a un principe qui s'intitule « les pensées réelles ». C'est-à-dire qu'il faut toujours, peu importe la situation que tu es en train de jouer, peu importe le personnage, que tu incorpores ce qui est en train de se passer en temps réel dans... C'est-à-dire que t'es en train de jouer une scène où tu te fais larguer par ta mec ou ton mec ou ta nana, et ben, et y a quelqu'un qui se pète la gueule ou qui marche dans la merde, et ben incorpore-le, au moins regarde, au moins fais, tu sais, une petite complicité avec ton ex, j'en sais rien, enfin, mais...
Comme dans la vraie vie, quoi.
Comme dans la vraie vie, voilà. Incorpore ce qui est en train de se passer parce que c'est réel et que le métier d'acteur, c'est de réussir à rendre des situations imaginaires réelles. Et voilà, et donc tout ce côté pensée réelle.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et incorpore ce qui t'arrive, ce qui est en train de se passer. Voir ce que... T'as la diarrhée. T'es en train de passer un entretien d'embauche. La scène, c'est tu passes un entretien d'embauche, il faut que tu sois carré. Sauf que dans la vraie vie, toi, l'acteur... t'as la chiasse, eh ben incorpore-le dans ton jeu et machin, et ça rendra le truc beaucoup plus riche, beaucoup plus réel et bien mieux. Et il y a un blooper de je sais plus quel film français, enfin c'est pas un blooper mais c'est des scènes coupées, où t'as Depardieu et Anconina.
Ça commence donc, bien.
T'as un très grand acteur, je trouve, hein, Depardieu et Anconina, qui est pour moi un acteur un peu médiocre, qui joue une scène... Et Depardieu, il essaye de l'amener à son niveau, en fait. Et il le bouscule sans cesse. Et il y a plein de moments où il lui dit des trucs qui sont pas dans le script. Et il l'interrompt, ou il le bouscule, il lui donne une tape sur l'épaule et tout ça. Et Anconina, à chaque fois, il s'arrête de jouer. Il regarde la caméra, genre, merde, qu'est-ce qu'il fait? Et Depardieu arrête pas de lui dire, mais continue! Joue! Joue, putain! Tu sais, bon, c'est Depardieu, quoi. Il se vénère. Il dit, mais putain! Pourquoi tu t'interromps là? Pourquoi t'arrêtes ce que je fais là? Mets-le dans ton perso. Et il lui dit vraiment ça, quoi. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour moi, c'est un truc qui fait la marque des grands acteurs et des grandes actrices. C'est que tu continues à faire ton truc. Et il y a des moments dans les films, tu peux voir qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prévus.
Donc les gens se souviennent de toi parce que t'es tombé donc sur scène.
Ouais.
Parce que t'as dit sandwich.
Vous étiez là au Rex pour la soirée Golden. Vous vous souvenez ou pas? T'étais pas là?
Moi j'étais pas là non plus, non.
Ah merde. Bon, il s'est passé un truc fou.
Clem y était peut-être.
Il s'est passé un truc fou comparable et après j'arrête de parler de ce genre de truc. J'ai prévu un passage où je parle de l'expression clou du spectacle. Et donc je commence et tout, je dis parce que je devais présenter un montage d'un best-of de vidéo Golden. Et donc je fais un truc en mode stand-up et tout, et je commence une minute, ok, ça se passe bien. Et à un moment je dis, en fait là je suis venu pour vous présenter le best-of, en gros le clou du spectacle. Et je prends une petite pause, je dis putain, le clou du spectacle c'est marrant comme expression. Qu'est-ce qui a inventé cette expression? Et là il y a un mec dans le public qui fait Jésus, mais très très fort. Et toute la salle éclate de rire. Et il m'a flingué les 3 minutes que j'avais écrit après, parce que j'avais écrit 3 minutes sur l'expression clou du spectacle.
Putain.
Et je me dis, waouh, c'est foutu, je suis flingué. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai laissé les gens rire et je dis, mec, je te déteste, t'es vraiment. Ta vanne est 1000 fois meilleure que toutes mes vannes d'après là. Ok, bah, j'ai plus qu'à sortir de scène. Et j'ai pris le micro et j'ai fait mic drop. Et j'ai dégagé de la scène. Mais je l'ai incorporé au truc.
Ouais.
Tout le monde m'a parlé de ça. Tout le monde m'a dit putain, c'était le meilleur moment de la soirée. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il le disait pour être sympa avec moi, mais en vrai, je pense sincèrement que d'avoir fait ça et d'avoir réagi comme ça, j'étais trop content de moi parce que, bon, sans vanité, hein, mais parce que j'ai pris l'échec à bras le corps et je l'ai transformé en un truc qui m'a mis en valeur au final. Et il y a plein de gens qui m'ont dit putain, il était trop bien ton passage, le mic drop, ça m'a tué, j'étais trop mort de rire. Ok, cool, c'était tellement pas prévu, j'avais pas prévu de faire ça. Et c'est juste que j'ai bien réagi à un truc négatif parce que le mec a fait une vanne qui était bien meilleure que mes vannes qui étaient écrites après.
Là, t'as parlé de plein de trucs, mais t'as fait beaucoup de stand-up, t'as fait première fois.
J'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait première fois.
T'as jamais fait première fois.
Ça fait 2 ans qu'à chaque fois que je croise Yacine, il me fait éventuellement, n'hésite pas à passer. Et je dis ouais, grave. Et il est trop gentil, il m'a ouvert la porte dès la première fois. Oh, excellent. je sais pas pourquoi, mais je suis un gros feignant. J'écris pas.
Est-ce que c'est parce que t'as peur d'échouer?
Un peu, hein. En vrai.
Alors que t'as appris quand même 2 fois sur scène que, en tout cas, l'échec de ma vanne marche pas.
Ouais.
Tu peux en faire quelque chose.
Bah ouais, complètement. Et en plus, pour les gens qui ont la chance d'assister à première fois, c'est le meilleur contexte que tu puisses imaginer pour monter sur scène, faire des vannes. Quoi, parce que...
Oui, petit moment contexte public éventuellement non parisien ou non habitué aux soirées première fois. C'est des soirées lancées par Yacine Bellous et
Mime.
Et Mime, oui, oh, j'étais sur Mid, mais c'était un autre DJ. Et Mime qui gère l'aspect musical. Et donc le concept, c'est des comédiens, comédiennes et artistes de musique qui viennent faire un truc sur scène pour la première fois, donc soit un sketch qui a jamais été joué, soit une chanson que jamais personne n'a entendue. Et du coup, le mot d'ordre de la soirée, c'est soyez cool, parce qu'en fait, les gens se foutent à poil, ils ont pas rodé leur sketch 30 000 fois devant 1000 personnes.
C'est ça.
Vous êtes les premiers, ils vous font un cadeau.
Ouais.
Donc profitez-en. Et c'est vachement cool parce que déjà, t'as de tout, donc t'as de la musique et de l'humour, donc c'est chouette, et parfois de la musique drôle. Et donc, best of both worlds. L'ambiance est très cool et ça permet de voir des gens comme Kian Kojandi ou Bérangère Krief qui viennent des fois tester des sketchs.
Kian a testé l'intégralité de son. Enfin, a fait pour la première fois l'intégralité de son spectacle là qui vient de terminer, Pulsion. À première fois. C'est-à-dire que vraiment, il a joué tous les mois un nouveau sketch. Qu'il a fini par bosser des dizaines et des dizaines de fois pour finir par arriver à la Cigale, je pense, quand il a fini par jouer dessus. Quoi. Donc c'est vraiment des soirées où en plus il y a moyen de voir des trucs pour la première fois. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui montent sur scène pour la première fois de toute leur vie.
Comme par exemple Charlie de Mademoiselle l'a fait. Non, elle a fait le One Man Show. Charlie, c'est Clémence qui a fait première fois.
Clémence est montée sur première fois. Et en fait, donc Clémence, c'est la première fois qu'elle monte sur scène et elle va faire son texte pour la première fois. Et à côté de ça, t'as Kian qui monte aussi pour la première fois. Et en fait, les deux sont limités à égalité parce qu'en fait, ils se chient de la même façon dessus. Parce que quoi qu'il arrive, même si t'as une expérience comme celle de Kian, c'est toujours compliqué de faire un texte pour la première fois. Donc rien que pour ça, cette soirée est trop cool.
Donc si vous passez par Paris, c'est une fois par mois à la nouvelle scène et ça coûte en plus 10 balles, donc
c'est pas cher.
Pour le nombre de gens qu'il y a, c'est vraiment pas cher et c'est très cool.
Mais ouais.
Et peut-être qu'il y aura une semaine.
Réservez vite parce qu'en général, c'est blindé en 2 jours.
Oui.
Les réservations.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui t'a mené? En fait, je trouve ça étonnant que quelqu'un qui a énormément de mal avec l'échec au point de pas jouer à des jeux de combat parce qu'il a perdu à Street quand il avait 10 ans, ça m'étonne que tu sois allé vers le métier d'acteur, parce que pour moi, tout ce qui est artistique, c'est tellement intime que l'échec est déjà de base beaucoup plus dur à gérer que si t'es comptable. Bon, bah, t'es comptable, tu passes un entretien d'embauche de comptable.
J'ai raté mon croisé dynamique. Non.
Tu vois, t'es pas pris en comptable. C'est pas des trucs qui touchent à ton identité. Donc, ça fait pas plaisir, mais c'est pas dur, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es acteur ?
C'est un autre problème psychologique. c'est très égotique, mais c'est ne pas vouloir accepter que mon existence est vaine et vouloir marquer l'histoire. Bon, là je suis en train de commencer à admettre que ce sera pas le cas, mais en fait j'ai grandi en admirant des gens, en fait, en admirant Kurt Cobain, en admirant Jim Morrison, en admirant Janis Joplin et Marlon Brando et Al Pacino. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi sert... Ou d'autres artistes, hein, j'en sais rien, Van Gogh, Dali. En me disant, mais en fait, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour créer quelque chose qui va apporter un truc à l'humanité. Et bon, j'ai toujours été attiré par les arts, en fait, que ce soit pictural ou les films ou la musique. Mais je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois... C'est l'envie, en fait, l'envie d'être comme les gens que j'ai toujours admirés, en fait. Et d'être admirable, du coup. Donc, il y a un côté égo, bien sûr. Mais voilà. En fait, de faire des choses que moi, j'admire, et qui, ça m'a toujours donné envie, en fait. Et je me suis jamais... En fait, aussi loin que je me souvienne, j'imaginais faire autre chose qu'un métier artistique, en fait. Mais, en parallèle, ça m'a... Avec mon état d'esprit, ma façon de penser, ma façon de concevoir les choses... Ça m'a paralysé pendant des années, et c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de choses avant mes 31, 32 ans, quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des day jobs à la con, à bosser aux Galeries Lafayette, à porter les sacs des dames riches, au lieu de poncer les salles parisiennes en faisant du stand-up, ou au lieu de me démerder à réunir trois potes et quatre bouts de ficelle pour faire des courts-métrages. J'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de temps. Parce que, j'avais peur que si toutes les conditions sont pas réunies, ce sera de la merde. Et c'est pas grave, en fait. Maintenant, je le sais. C'est pas grave de faire de la merde. C'est pas grave de rater un sketch ou une vidéo ou un concert. J'en sais rien. C'est pas grave, en fait. Mais j'ai perdu beaucoup de temps comme ça.
Donc au final, ta carrière a pas démarré depuis si longtemps que ça.
Ah bah non. Vous l'avez vu.
Comme t'es en train de dire déjà, je suis en train d'admettre que ça sera pas le cas.
Mais c'est que je fais un métier où ton âge compte.
Ah, tu penses ?
Mais t'as toujours des histoires de machin qui a pas d'éclat, enfin, qui a pas joué un rôle jusqu'à ce qu'elle ait 48 ans et
oui,
maintenant
c'est
elle a un Oscar, tu vois.
Frances McDormand, c'est trop cool de voir des exemples comme elle, ou comme Berléand en France, ou Dustin Hoffman, qui lui-même a eu son premier rôle, ce qui est marrant parce qu'il jouait The Graduate, donc c'est un lycéen, hein, qui va avoir son bac, et il avait 32 ans. Bon, d'accord. Et j'ai la chance de faire un peu plus, beaucoup plus jeune que mon âge physiquement, donc c'est cool. Mais je me dis, putain, la route est longue, et pour aller au ciné, pour faire des rôles vraiment marquants et tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup.
Parce que c'est ton ambition, en fait, d'aller au
toujours.
Ciné.
Enfin, mon ambition quand j'avais entre 9 et 15 ans, c'était plus le théâtre. Mais quand j'ai commencé à découvrir des films majeurs, je me suis dit, ah non, quand même, tu touches encore plus de gens, en fait. Tu marques encore plus l'histoire. Parce que des acteurs de théâtre légendaires, enfin, il n'y en a pas énormément, il y a Sarah Bernhardt. Bon, voilà, tu vois, c'est parce qu'elle était sur beaucoup de posters de Mucha, qui est très fort. Mais
ça devient d'où l'idée de vouloir marquer l'histoire ? C'est quand même pas anodin, quoi.
Bah, c'est de la vanité.
Que ça ?
En fait, c'est lié à ma terreur de la mort, parce que je suis depuis toujours persuadé que la mort, c'est vraiment t'arrêtes de respirer, de vivre et c'est fini, quoi. Et vraiment, c'est l'abysse, quoi. Il y a absolument plus rien. Après, t'as plus de conscience, donc c'est pas grave. Mais il y a plus rien, quoi. Et je me dis, si en fait, pour moi, l'éternité, c'est rien. À quoi sert mon existence ? Voilà.
Et tu lui donnes un sens en voulant que les gens se rappellent de toi ?
Ouais, enfin, c'était l'objectif, c'était le projet à la base. Pas sûr de réussir, mais c'était le projet.
Ok. Voilà. Ça me fascine toujours les gens qui ont la même opinion sur la mort que moi, c'est-à-dire qui croient pas à la vie après la mort, ni à une forme de paradis ou de continuité, et qui en ont peur, parce que moi, je trouve ça hyper rassurant. C'est c'est pareil pour tout le monde, à la fin, on meurt et il n'y aura plus... Enfin,
ouais.
T'es mais en plus fait, là, quoi, t'es, qu'est-ce soit que tu t'en vois... fous, quoi.
C'est ça, soit tu le vois comme un soulagement, et toi, t'as l'air de le voir comme ça, genre, ah, bah, en fait, il n'y a plus...
Bah, j'ai pas hâte non plus, et je suis triste quand les gens meurent, bien sûr, mais c'est juste pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi après ma mort, alors qu'il y a aucune... Enfin, je n'en aurais aucune notion, ce qui est peut-être égocentrique. Genre, moi, je m'en fous, je le saurais pas, donc pensez ce que vous voulez. Ouais. Mais tu vois, c'est... Oui, on n'a qu'une vie, et à la fin, on meurt, et c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde. Donc, en fait, avoir une vie exceptionnelle n'est pas une obligation, parce que sinon, tout le monde devrait en avoir une, et ce serait fatigant.
Mais, ouais, non, mais bien sûr.
Mais l'idée de vouloir qu'on se souvienne de toi.
Mm.
Mais donc,
pour pas vraiment mourir.
Mais je pense que c'est notamment pour ça que plein de gens font des enfants. Pour garder une trace.
Ouais, mais la portée,
pour laisser une trace.
Mais c'est plus,
tu te souviens de ton arrière-grand-père?
Non, j'ai jamais connu.
Donc à trois générations, c'est mort, en fait, ça sert plus à rien.
Ah, toi, t'es vraiment dans
mais
le truc de...
Tu gagnes une ou deux générations.
Ouais.
Donc, pour être l'arrière-grand-père sympa.
T'es vraiment dans le truc de...
Mais c'est le complexe d'Achille, je crois que
c'est Victor Hugo, quoi. Léonard de Vinci, carrément, c'est...
Ouais. Ouais, non, mais c'est comme ouais Achille, quoi. C'est qu'il dit au début de la guerre de Troie, enfin, juste avant la guerre de Troie, il voit sa mère qui lui dit de deux choses l'une, soit tu restes ici, tu fais pas la guerre de Troie et tu vis une vie heureuse et tout ça, soit tu vas à Troie et tu inscris ton nom dans l'histoire, mais tu n'en reviens pas. Et il dit bah ok, je réfléchis, même pas une seconde, et il y va. Et il veut, et voilà. Et c'est complètement ça, quoi. C'est moi, je suis prêt à mourir j'allais dire à 35 ans, mais je les ai dépassés, merde. Je suis prêt.
T'es en retard, hein.
Non, mais vraiment, je suis prêt à mourir à 50 ans je sais pas, parce que là, je suis en train de me dire, je suis en train d'avoir vraiment très envie d'avoir des enfants, donc j'ai envie de les voir grandir, mais.
Ah, t'es cuit déjà. Le héros maudit, c'est cuit, quoi.
Ah ouais, voilà. Mais en fait, de base.
Tu changes des couches.
T'allais trop loin.
Ouais, c'est ça.
T'allais trop loin dans ta vie.
Mais initialement, c'était ça, mon idée de réussir mon existence, quoi. C'est pas grave, je meurs à 27 ans comme toutes les idoles, mais je suis une idole.
J'adorerais être ton psy, vraiment. Non, mais c'est vrai, je me dis...
il y a du taf, ouais. Du taf.
Non, en plus, c'est même pas, je pense pas qu'il y ait du taf, c'est juste que
t'as déjà
creusé pas mal de trucs.
Ouais, bon.
Mais pourquoi t'as peur de ça? Bah, parce que la vanité, écoute, voilà, bon.
Bah, Non, mais il suffit d'être lucide, quoi, de...
Ouais. C'est pas aussi simple que ça, je crois. C'est marrant que tu trouves que ce soit aussi simple. Je pense pas que c'est très simple, au contraire. Ouais.
Pourquoi tu veux des enfants? Je suis très contente parce que t'es le premier invité de
The
Boys Club qui me parle de parentalité. Alors bon, c'est aussi lié au fait que j'ai eu pas mal de jeunes hommes,
oui.
Soit célibataires, soit pas mariés en tout cas, ni rien, ouais. Donc voilà. Mais t'es le premier à me dire je veux des enfants.
J'en ai pas voulu jusqu'à, je dirais, il y a 5 ans. Et au fur et à mesure, là, ça commence à de plus en plus faire son petit chemin dans ma tête. Et j'avais rien contre avant, mais je me disais, il faut que je réalise plus dans ma vie, que je me réalise plus. Et là, je suis en train de réaliser que bah, avoir des enfants, c'est se réaliser aussi. Et j'ai trouvé une personne avec qui j'ai très envie de le faire. Quand bien même elle aussi, c'est...
Ce qui est quand même une condition sine qua non, hein, si je puis me permettre.
Oui,
c'est
voilà.
Toujours mieux, en tout cas.
Et dans des conditions, parce qu'on a une façon de vivre un peu particulière, mais dans des conditions aussi qui vont s'adapter à tout ça, et on en a beaucoup discuté et réfléchi ensemble, et c'est super. Et en fait, j'ai envie de transmettre, je me visualise bien, en fait. J'ai envie d'élever un petit être, j'ai envie d'éduquer quelqu'un. C'est con, mais je me dis qu'on a tous une responsabilité humaine, et même à l'échelle de la Terre, en fait. Plus on va élever des petits gars et des petites meufs qui sont éveillés, qui sont intelligents et qui sont modernes et qui ont une façon de voir la vie que moi je respecte, et plus on a de chances que l'humanité se sauve. Parce que là, on est mal barré, on est dans un mauvais... On peut croire qu'on est sur une fausse route et qu'on va s'éteindre. Franchement, notamment au niveau de l'écologie, si ça continue comme ça, on va s'éteindre assez rapidement. Mais si on élève nos jeunes, nos enfants, à justement à être éveillés, à être conscients de toutes ces choses-là et à travailler d'une autre manière, à se réinventer, à essayer de donner une autre direction, à faire dévier un petit peu l'humanité, qu'on soit moins dans l'oligarchie et toutes ces choses-là, eh ben, on va peut-être y arriver. Et voilà, et ça donne envie, en fait, de...
C'est très positif, putain. Ça, ouais. Ça nous change de la vanité, là.
Ouais. Bah, je mûris un peu.
Il a changé.
Avec les années.
Ceci dit, c'est marrant parce que il y a une autre face aussi du fait de pas vouloir faire des enfants. C'est que, justement, dans, comme t'es en train de dire, l'humanité part un peu en couille. Le fait de dire, en fait, tu viens mettre au monde un enfant qui va grandir et qui va lui-même
consommer.
Voilà, rentrer dans le schéma parce que on peut pas faire autrement aujourd'hui. Voire même être dans un monde complètement niqué demain s'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, etc. T'as ce pendant-là aussi, tu vois. C'est très paradoxal, quoi.
Complètement. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur un fil, en fait.
Mauvais choix, on ne sait pas.
Ouais, il y a un côté, je fais le pire cadeau à un être humain, de lui donner la vie dans le monde qui va à sa perte. Mais je me dis, si on voit les choses comme ça, on se tue, en fait. Ça sert à rien. Enfin, moi, je me serais tué déjà. Et l'autre choix, l'autre côté, on se dit, bah non, je vais donner la vie à un être humain et essayer de lui inculquer un maximum de valeurs et de principes pour que, ensemble, cet être humain et moi et notre famille, est-ce qu'on va construire ensemble, essaye d'influencer les gens autour de nous et au fur et à mesure qu'on se répande comme un virus positif, quoi, comme un virus cool qui va essayer d'amener les choses, des choses meilleures, même si je suis loin d'être parfait. Il y a plein de choses que je fais pas bien. Je mange encore de la viande, par exemple. Mais on peut essayer d'évoluer, d'avancer et de... Non, mais je pense aussi c'est la pensée, en fait. C'est d'éveiller les gens et d'essayer de s'éduquer les uns les autres et d'essayer d'aller de mieux en mieux et de se faire comprendre des principes importants et voilà.
Reviens dans la discussion, Mimi, sinon on va faire une histoire de daron, hein, tu sais.
Mais, histoire de futur daron, écoute. Non, ça mais pourrait être un angle. Je suis très contente qu'on puisse aborder ce thème-là. Et mince, j'avais un truc. Oui, tu disais éveiller les consciences autour de soi. En parlant de ça, en se rapprochant un peu moins dans le futur que le jour où tu auras un enfant, je sais, il me semble que toi, tu t'identifies comme féministe.
Complètement.
Une personne féministe.
Ouais.
Comment tu fais en tant que mec pour transmettre ce message autour de toi, que ce soit aux hommes ou aux femmes ?
J'essaye, sans être paternaliste ou condescendant, ou... d'expliquer aux gens quand ils disent des choses qui vont pas dans le bon sens, en fait. Mais ça marche pas que pour le féminisme, en fait. Enfin, dans le bon sens, selon moi, hein, attention, j'ai pas la science infuse et je fais sûrement des erreurs et je dis sûrement des conneries et j'en ai peut-être dit depuis une heure, j'en sais rien. Mais j'essaye de m'améliorer, en tout cas. Et le petit chemin que j'ai fait et que j'ai conscience d'avoir fait dans le bon sens, ou le sentiment d'avoir fait dans le bon sens, j'essaye de partager ça et d'éduquer un petit peu, entre guillemets, les gens autour de moi. C'est difficile à faire, en fait. C'est difficile parce que t'as pas envie d'être... De prendre les gens de travers, en fait. T'as pas envie de les vexer parce que c'est pas constructif. T'as pas envie de leur dire écoute, t'as besoin d'être déconstruit, tu vois. Je pense que ça, c'est difficile, en fait. Et c'est un truc que auquel vous faites face constamment, en fait, quotidiennement, et t'as pas envie de dire à une personne non, alors là ce que tu dis c'est vraiment de la merde. C'est à dire que pour le féminisme, moi j'essaye toujours de renvoyer vers des filles, ou identifier filles, des personnes qui subissent le sexisme ou le quotidien difficile d'une femme ou d'une personne identifiée femme. Il faut relayer la parole des gens qui savent, en fait, des personnes qui sont concernées. Et ben, c'est pas évident, mais voilà, j'essaye de faire ça.
Et au tout début du podcast, t'as dit un truc genre j'ai un perfectionnisme qui, comme la masculinité, est peut-être un peu toxique.
Ouais.
Qu'est-ce que tu identifies de toxique dans la masculinité ?
Franchement, tout. quasiment tout, en fait. Il y a quelques valeurs qui sont peut-être appréciables, le côté Il faut essayer de protéger le plus faible, essayer de d'être fort et d'être positif et d'être battant et tout ça. C'est cool, mais malheureusement, chacun de ces aspects a un côté négatif en fait. C'est-à-dire que on nous apprend des trucs qui sont censément positifs, genre il faut être fort. Mais le double tranchant de ça, c'est que implicitement, on te dit si t'es faible, t'es vraiment une merde. Alors que il faudrait apprendre il faudrait dire essaye d'être fort. Si tu échoues, c'est pas grave. T'as le droit à avoir des moments de faiblesse et ça va construire ta force plus tard. Je crois. Mais je trouve que c'est très toxique, en tout cas pour l'instant. Parce que, et puis ça implique aussi que le problème, c'est que c'est le problème du genre, en fait. C'est que quand on te dit, toi, mon petit garçon, il faut que tu grandisses pour être fort, ça implique aussi que les filles ne sont pas censées être fortes. Je dis pas que c'est la vérité, hein. Justement, c'est que c'est ce qui est impliqué. Tu vois, et même la chevalerie, tu vois, le côté il faut être galant, il faut être ci, il faut être ça. En fait, il faut être respectueux et généreux avec les êtres humains. Faut pas être moi, je trouve que la galanterie, c'est de la merde. C'est on s'en bat les couilles, en fait, ou les ovaires. Mais tenir la porte à une dame, c'est pas plus admirable que tenir la porte à un gars. On s'en fout, en fait, de ça. C'est juste, tiens la porte à la personne derrière toi parce que t'as envie d'être généreux et sympa avec cette personne, ou poli. Mais la galanterie, ou invite la nana quand c'est votre premier verre ou votre premier resto. Non. Invite la personne si t'as envie de l'inviter, que t'es généreux et que t'as envie de lui faire plaisir, ou que t'as envie de la mettre bien, tu vois. C'est cool. Mais il faut pas que ce soit en rapport à son genre, en fait. On s'en bat les steaks de ça. Enfin, maintenant, moi, je m'en bats les steaks. Mais c'est vrai que je me suis construit en me disant, ok, faut que je pro... comment, je sais pas, merde, je vais faire une Vandamme. Provide, comment on dit provide?
Faut que tu assures une...
Que tu fournisses, ouais. Mais que tu fournisses un service, quoi, que tu sois...
Le provider, c'est celui qui ramène...
C'est le chasseur qui ramène,
ouais,
qui rapporte à manger.
Ouais, à la fois l'argent, les moyens de subsistance, etc. Ouais, voilà. En tout cas, c'est un rôle actif, quoi.
Ouais, c'est un rôle actif de, en gros, monsieur va travailler ou rapporter de la pitance et madame va préparer la pitance. Voilà. Et ça, je me suis construit là-dedans. En plus, j'ai été élevé par une mère au foyer, quoi. Donc pour moi, c'est la construction logique dans ma tête initialement. C'est vraiment maman va faire la bouffe, nettoyer le linge, faire le ménage dans la maison et gérer les enfants et tout ça. Mais c'était son choix à elle aussi, hein, donc elle a pas fait à contre-cœur. Mais justement, je me suis bagarré avec ma mère quand j'ai commencé à être un jeune adulte et je lui ai dit arrête de. Mais je vivais encore chez mes parents, mais je lui ai dit s'il te plaît, arrête de laver mon linge. Parce qu'elle venait dans mon placard et elle récupérait mon linge sale et elle lavait mes trucs et c'est très gentil de sa part. Mais à un moment, je lui ai dit maman, stop. Pourquoi c'est toi qui fais ça? Elle dit, tu vois, c'est normal. Non, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Je suis un adulte maintenant. Je peux le faire. Et après, elle a jamais dit, c'est normal parce que t'es un garçon et t'as d'autres choses à foutre. Hein. Mais elle a toujours dit, c'était son côté protectrice, maman, quoi. Mais moi, je me suis construit aussi en jeune adulte à me dire, en fait, moi, je vais être fier d'être indépendant et je sais cuisiner, je sais coudre, je sais repasser, je sais faire toutes ces choses-là qu'on attribue aux femmes. Culturellement, et je suis trop fier de savoir le faire et de le faire bien. Et tu vois, voilà. Et quand on me dit, oh, tu sais coudre, je dis, ouais, et so what, quoi. Enfin, c'est normal, c'est si t'as envie de. Enfin, je sais pas.
Oh là, j'ai l'impression d'avoir
dévié des sujets de.
Non, non, c'est vachement bien comme épisode, je suis très contente. Okay. On va conclure gentiment. J'ai trois questions pour toi, t'es prêt?
Vas-y.
Première question, qu'est-ce que tu dirais à un garçon. Disons adolescent qui écoute ce podcast.
Mets-toi à la place des meufs. En réponse courte. Mets-toi à la place des meufs parce que c'est pas facile pour elles dans la société dans laquelle on est. Et si tu te mets dans ces baskets un peu de temps en temps, tu vas te rendre compte de tous les trucs bidons que tu fais. Et donc, bah, si t'es malin, t'arrêteras de les faire. Et potentiellement, tu vas parler avec elle et tu vas dire, putain, c'est nul. Et elle va t'apprendre des choses et voilà.
Waouh, un nouveau monde s'ouvrira à toi.
Ouais, c'est grave, c'est grave, clair, je pense.
Ça va être trop bien. Deuxième question, je te l'ai posée en avance. C'est quel homme réel ou fictif représente pour toi un exemple de masculinité positive ?
Eh ben, c'est là qu'on boucle un peu, puisque c'est Jeff Probst, l'animateur de Survivor.
T'aimes trop.
Non, mais c'est, et j'ai réfléchi à cette réponse parce que c'est très construit en fait dans ma tête. D'une, c'est vraiment l'américain type. C'est vraiment c'est Ken. Il est hyper beau, il est musclé, il est tu vois les yeux bleus machin. Vraiment l'américain conquérant comme tu peux te l'imaginer. Il a une belle voix, il est charismatique, il est super cool. Voilà. Donc tu te dis waouh, c'est l'homme parfait. Mais pas seulement en fait. Il est aussi extrêmement sensible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment dans Survivor où les gens sont en train... Il est très, très...
Empathique ou...
Empathique, ouais. Mm. C'est-à-dire que dès qu'il sent que les gens sont émus, il dit, mais là t'es en train d'être touché par ce qui est en train de se passer. Les gens, il les invite, sans les pousser à lâcher les larmes parce que ça fera de l'audience, mais il les invite à exprimer ce qu'ils pensent et à exprimer ce qu'ils ressentent et tout ça. Il est très ouvert là-dessus. Et aussi lui-même en fait, il est très attentionné en fait, ce qui est une valeur qu'on attribue plutôt aux femmes de manière générale. Et il est extrêmement attentionné, c'est-à-dire que tu sens qu'il aime les gens, il aime les concurrents. Et quand ils se blessent ou quand ils ont des moments où ils sont ou qui sont effondrés en larmes et tout ça, eh ben il va leur faire un câlin ou il leur dit des mots très gentils, il dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, on est avec toi, c'est super ce que tu fais. Il est hyper il est hyper chaleureux et hyper aimant et hyper émotionnel, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on attribue plutôt aux femmes. Et c'est marrant parce qu'avec son physique et son charisme et son côté très homme, il est très masculin. Et à la fois, pour moi, il représente une manière très moderne et très en avance sur son temps d'être masculin. Et il y a un dernier exemple qui s'est passé dans une saison récente. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, parce que je vais vous convertir et vous allez regarder Survivor.
C'est déjà fait.
Il y a un concurrent qui a été au cours d'un conseil qui a été outé en tant que homme transgenre devant tout
j'avais
le monde.
J'avais suivi l'affaire, j'étais en mode. Oh my god.
C'est-à-dire que le mec qui l'a outé. Il a fait concurrent s'appelle Zik, bon je vous le spoil, et il dit mais il était en train de dire ouais mais Zik on peut pas lui faire confiance machin, il fait des trucs dans son coin et tout, on peut pas lui faire confiance dans la tribu, et il sentait que son argument marchait pas. Il fait et par exemple Zik, est-ce que t'as déjà dit à quelqu'un que t'es transgenre? Wow. Et là Jeff, donc le host, il a fait wow wow wow. Comment tu te permets de faire ça? Et il a réagi immédiatement en disant c'est impossible, on peut pas tolérer que tu fasses ça. Wow. Et Zik, il était genre complètement impassible, tu vois, tu sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était en train de crever sur place, quoi. Genre, j'avais pas prévu de faire ça en fait, j'avais pas prévu de me outer et personne ne s'en doutait, personne ne disait il est un peu. Non, rien, c'était un mec, c'était Zik, c'était un concurrent, et voilà, on s'en foutait de son genre en fait. Et vraiment tout le conseil, et c'est Jeff vraiment qui a pris les choses en main et qui a mené la discussion pour dire vraiment tu respectes pas qui il est en fait, tu respectes pas ses choix, tu respectes pas son rythme de s'il a envie d'en parler peut-être qu'il en parlera, mais c'est à lui de le décider. Et là tu lui as complètement volé son droit à sa propre identité, sa propre histoire et tout ça. Et il a eu une façon hyper woke comme on dit de réagir, quoi. J'ai trouvé ça admirable.
Ils ont passé ça à la télé.
Ouais, mais évidemment, sur le cul en regardant.
Évidemment, avec l'accord de la personne.
Non, mais bien sûr, mais c'est surtout, pour moi, c'est une fantastique moment d'éducation, entre guillemets.
Complètement. Et justement, tu vois, c'est. Moi, j'étais au bord des larmes parce que c'est émotionnellement hyper lourd. Et en plus, j'étais aussi ému du fait que. Un show aussi énorme que Survivor, parce que c'est énorme aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène. J'imagine, quoi. Ouais. C'est Koh-Lanta en France, ça marche très très bien, mais aux États-Unis, toute proportion gardée, c'est genre 5 fois plus, quoi. C'est vraiment des millions et des millions de gens qui regardent Survivor. Et donc, l'impact sur les gens qui ont regardé ça, je me dis, putain, c'est tellement cool, c'est tellement positif, même si les circonstances sont très très dures, parce que On aurait aimé que ce soit épargné à cette personne d'être outé devant tout le monde en tant que transgenre parce qu'il n'avait pas envie forcément de parler de sa transition.
Attends,
et tout
en faire un moment... Justement, il en fait un moment positif. Quoi. Il en fait un
et,
moment...
et justement, Jeff l'a transformé en moment positif avec le... et d'ailleurs tous les autres, et même le mec qui a outé immédiatement en fait. C'est trois secondes plus tard.
Merde.
Trois secondes plus tard, il s'effondre et il fait « Oh putain, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et il est sincère, il est hyper sincère. Et lui-même, il est gay. Enfin, tu vois, et il est du coup sensible à la cause et tout ça. Et, non, mais tu vois, ce jeu te pousse dans des extrêmes incroyables.
C'est la fin.
Et c'est incroyable.
C'est la non, mais c'est la fin FIM, quoi. Je pense vraiment que la fin est le fait de pas
ouais,
dormir.
Non, c'est
pour
ouais,
ça
tout.
Que ce jeu est génial.
Et l'envie de la compétition aussi.
Il y a la compétition.
À la base, il fait ça pour qu'il soit éliminé. Et pas ouais. pour ce qu'il. Il le fait pas pour l'éliminer parce qu'il aime pas les trans. Il le fait pour qu'il soit éliminé parce qu'il veut.
Parce que
il
c'est
veut
un
pas
bon
être
concurrent.
Éliminé, lui.
Il est sur le gris, lui.
La personne trans est plutôt un bon concurrent. Dans cette saison-là.
Ah ouais,
et le mec qui le out parce qu'il se sent menacé. Il dit il va aller trop loin dans le jeu.
Il cache des trucs.
Ouais, voilà,
il
est trop bien.
Voilà ce qu'il vous cache.
Voilà.
Tu vois.
Et wow. ça a été extrêmement bien géré par la prod et dans le montage, j'imagine aussi. Et Jeff, qui est
donc
animateur et producteur du show. Parce que, voilà.
Mec, tu me l'as vendu. C'est bon.
Non,
c'est parti.
Le mec est génial.
Adieu.
Il est vraiment génial.
Adieu Fabrice.
Et j'avais beau.
Histoire de daron, c'est fini. Vous l'aurez entendu ici en premier. Parce que Fabrice
il va regarder Survivor à la
place. Oh my god.
Si tu veux, on fait un podcast. On parle de Survivor.
Ça tombe bien. Puisque ma dernière question, dis-moi. Juste pour toi, c'est par quelle saison de Survivor on commence si on a 36?
Alors,
j'ai pas envie de regarder 36, aide-moi, Lucien.
Non. Bah déjà, je t'ai montré ma liste de 12
oui.
Best-of.
On pourra la mettre dans les show notes.
Ouais, si vous voulez, bien sûr. Et il y en a 8 qui sont pour moi immanquables. Mais en fait, celle qui fait la meilleure introduction à Survivor, pour moi, c'est la saison 19, parce qu'elle introduit un personnage, enfin un concurrent. Je les appelle des personnages tellement pour moi, c'est une série.
Mm-hmm.
Un concurrent qui révolutionne le jeu.
Oh, t'en dis pas plus.
Mais comment on peut le savoir qu'il révolutionne le jeu alors que si on n'a pas vu les précédentes?
Parce mais que parce
c'est
que...
un Coréen.
Ouais, non, mais vous
gens,
connaissez, vous connaissez.
Ça ressemble un peu à Koh-Lanta, etc.
Voilà, vous connaissez Koh-Lanta et tout ça.
Oh
et ce mec-là, après, le.
On y va, Mimi, putain.
Survivor.
On va regarder.
Survivor allait déjà beaucoup plus loin que Koh-Lanta à l'époque, mais lui, il a pris le jeu et il l'a mis à un autre level. C'est-à-dire que.
Et c'était il y a 17 ans, c'est ça?
Non, c'est deux, trois saisons par an.
Deux saisons par an.
Deux saisons par an.
Donc la 19, c'était il y a 7 ans, 7, 8 ans.
Ok. Ça
fait un bout de temps, quoi.
Ouais. Et ce mec-là, en fait, depuis. Il y en a quelques-uns des concurrents.
Koh-Lanta, quoi.
Non, mais tu vas mourir, Fab. Tellement c'est mieux. Tellement c'est 10 000 fois mieux. Mais c'est, franchement, c'est impossible. Je les ai sur mon disque dur, je vais te les filer.
Il y a un dernier câble de volonté qui est en train de vaciller dans
la
tête.
Non, mais là, c'est foutu.
Faut que j'arrête
un stone. T'es vraiment un dealer, quoi. T'es là en mode, prends-en un peu, c'est pas cher, c'est sympa.
Mais tu regardes la saison 19 et t'es axé du crack, mon gars. C'est du crack.
Merde.
T'es direct fonce D et t'es direct accro.
Désolé, vous aimez bien Mademoiselle? C'est trop, c'est fini.
Non, il va regarder ça.
Moi, on va regarder comment. Bye Clémence, tu gères maintenant.
Non mais moi j'ai découvert Survivor grâce à mon pote K.O. que vous connaissez un petit peu.
Bien sûr.
C'est lui qui m'a dit tout ce que je suis en train de te dire, c'est lui qui me l'a dit. Et c'est lui qui m'a dit commence par la 19. C'est lui qui m'a dit.
Il se refile là de la bonne
et
table
il m'a
en
dit,
plus.
Il m'a dit mec, si t'arrives à regarder la 19 et que tu n'as pas envie irrépressiblement, genre tu peux vendre ton père et ta mère plutôt que de regarder la 20 à la suite. C'est incroyable. Après, moi, je déconseille de regarder la 20 si tu es accroché à la 19, parce qu'il faut retourner dans le temps, plus tard, dans les éditions précédentes.
Oh merde, Dr. House.
Le mec
un peu.
Qui fait Star Wars, quoi.
Mais pourquoi? Parce que dans la 20, c'est que des gens qui reviennent.
Ah,
c'est
ils
que
ont
des...
fait le choc des
en
héros.
En fait, le 20, c'est plus que le choc des héros. La saison s'appelle Heroes versus Villains. Donc, t'as
ils
une
sont
team.
Trop forts,
mais oui.
Aux États-Unis.
T'as une team de gentils et t'as une team de méchants. Et c'est la meilleure saison que tu puisses imaginer de ce genre de jeu. C'est incroyable. Voilà.
Allez. Merci beaucoup, Lucien. Merci de m'avoir fait
pas,
perdre
moi.
Ma vie.
Écoute,
moi, je dis pas merci.
Je vous en prie.
Ainsi que mon patron et co-intervieweur, Fabrice Florent.
Chaud.
Qui...
Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à
merci
vous.
Merci beaucoup d'être venu.
C'était trop bien.
Très bien.
Bon, j'espère.
Et on va mettre dans la description les liens pour les gens qui veulent aller voir ce que tu fais. Dans la vie, par exemple, ta chaîne YouTube.
Ta chaîne YouTube que tu as lancée dernièrement.
En octobre, ouais, je suis content, ça commence bien.
C'est mérité.
Merci.
Bravo, vraiment.
Cool. Oui. Eh ben, merci de m'avoir accueilli et invité. C'était super sympa.
Trop cool.
Merci à toi, merci Fab, comme
merci
d'habitude.
Mimi.
Et merci à toi qui écoutes ce podcast, peut-être sur une appli de podcast, peut-être sur YouTube, peut-être sur SoundCloud ou que sais-je. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et des commentaires si tu es sur YouTube et des étoiles, idéalement 5 si tu es sur iTunes. Ça permettra au podcast d'être... Ah oui, je suis aussi sur Spotify.
C'est vrai.
Tout à fait, j'oublie. Merci.
Merci Lucien.
Moi, les podcasts, je les écoute sur Spotify et ceux qui n'y sont pas, ça me fait bien chier. Il y a que le Floodcast que j'aime trop pour ne pas écouter sur Spotify, ils y sont pas.
Ouais.
Mais tous les autres, je dis ah, c'est pas sur Spotify, bon tant pis.
Tout à fait, The Boys Club est sur Spotify et en plus,
et
j'en suis très fière.
Tous les podcasts de Mademoiselle, d'une manière générale,
oui,
sont sur Spotify.
Il y a Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast de Clémence Bodoc qui est trop bien. Il y a les podcasts Mademoiselle, dont Laisse-moi kiffer, la nouveauté. Qu'on a lancé avec Louise, Cédric et Kalindi, qui est extrêmement con comme podcast.
C'est
je vous conseille
podcast...
de l'écouter si vous aimez rire.
Très con.
Oui, c'est débile. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Bye bye.
Bye bye.
Salut.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.